Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann le Chypre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver, c'est Laurent Neumann.
Salut à tous, c'est Alexandre Devecchio.
Bonjour à tous, c'est Laure Clausier, on est ensemble jusqu'à 14h. Mesures liberticides, dictature, apartheid, coup d'état sanitaire. Les mots pour qualifier la politique sanitaire sont durs et parfois manquent de sens. Alors les anti-Macron dépassent-ils les bornes? C'est notre question jusqu'à 13h.
Oui, et à 14h, on parle de quoi? On parle du pass sanitaire.
À 13h,
on parle du pass sanitaire au quotidien. Bon, vous êtes pour ou vous êtes contre? D'accord, très bien. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces mesures sont applicables ou pas? On vous attend au 32-16. Et là, pour le coup, il y a débat.
À 12h50, on va jouer au C'est quoi ça, notre jeu sur l'actualité. Cette semaine, vous gagnez votre séjour en famille pour 4 personnes au Futuroscope. Arthur, l'aventure 4D, la danse des robots, la machine à voyager dans le temps des lapins crétins. Ah. Tout ça, c'est pour vous. Vous pourrez même dormir là-bas. Vous envoyez dès maintenant JEU par SMS au 73216 et on jouera ensemble tout à l'heure. L'extension du pass sanitaire annoncée par Emmanuel Macron mardi soir met très en colère une partie des responsables politiques qui n'hésitent pas à utiliser un vocabulaire très très fort. Petit florilège avec Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan.
Emmanuel Macron a fait lundi soir un coup d'état sanitaire, instrumentalise la peur des Français, joue sur la peur, manipule pour dissimuler sa propre responsabilité.
On arrête le délire tyrannique, le pass sanitaire qui a été annoncé hier, et j'en appelle à ce qu'on sorte de cette folie, parce que là, ça va finir extrêmement mal si on continue comme ça.
L'eurodéputé écologiste Michel Rivasi a de son côté considéré que c'était l'arrivée de l'apartheid dans le pays des droits de l'homme. Sur Twitter et les autres réseaux sociaux, les commentaires mettant en avant une dictature en construction se sont multipliés. On fait même remonter cette tendance. Tout un vocabulaire de la fin de l'état de droit monte sur Twitter. Alors notre question, les anti-Macron dépassent-ils les bornes? Laurent, tu dis oui.
Oui, enfin ils ont dépassé largement les bornes de la bêtise. Moi je me souviens de la phrase qu'on avait l'habitude de citer de Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et maintenant, on a changé de sens. Maintenant, tout ce qui n'est pas excessif n'est plus signifiant. Donc, tout le monde s'en donne à cœur joie. On emploie des mots dont on ne maîtrise absolument plus le sens. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, oui, ils ont dépassé les bornes, ces gens-là, puisque certains, employant des mots qui dépassaient, heureusement, leur pensée, ont fait amende honorable, ont retiré ces mots et se sont même excusés. Je pense à Michel Rivasi, qui avait comparé le pass sanitaire à l'apartheid. Elle a retiré... elle a retiré ses propos. Isabelle Balkany, qui a comparé le pass sanitaire à l'étoile jaune, elle a retiré et elle s'est excusée. Mais certains ne s'excusent pas. Certains continuent. C'était le cas de ceux qu'on vient d'entendre il y a quelques instants. Et de toute façon, ceux-là, ils ont déjà perdu la bataille. Quelles que soient les questions qu'ils posent, et oui, peut-être qu'ils posent parfois de bonnes questions, mais ils ont déjà perdu la bataille. Les deux tiers des Français sont d'accord avec toutes les mesures qui ont été présentées lundi par le président de la République. Il y a maintenant 79% des gens qui sont prêts à aller se faire vacciner. Et d'ailleurs, si on ne croit pas les sondages, on met toujours les sondages, les mêmes d'ailleurs qui critiquent les responsables politiques critiquent les sondages aussi. Mais quand on ne croit pas aux sondages, on croit au moins aux faits. Et les faits, c'est qu'en 24 heures, il y a 2 200 000 personnes qui sont allées prendre rendez-vous. Donc, on n'est pas dans une dictature sanitaire. Et si d'ailleurs, on était dans une dictature sanitaire, les amis, mais ceux qui dénoncent cette dictature n'auraient pas l'occasion de le dénoncer. Ils n'auraient pas le droit de la dénoncer. Ce qui est bien la preuve que dans ce pays, on est bien en démocratie et qu'on peut tout dire, même de grosses, grosses bêtises.
Alexandre.
Non, mais Laurent Neumann s'indigne, joue les offensés comme s'il il a de la bouteille. Laurent Neumann, il connaît le débat politique, le coup d'état sanitaire. Enfin, c'est François Mitterrand qui parlait à l'égard du général de Gaulle du coup d'état permanent. La gauche nous a enquiquinés. Je reste poli en traitant tout homme de centre droit de fasciste pendant des années depuis mai 68. Et maintenant, on a Laurent Neumann qui fait la morale, il ne faudrait pas dire ceci ou cela. Alors oui, je pense qu'effectivement, parler d'étoiles jaunes, c'est malvenu, c'est insulter les victimes de la Shoah. Donc c'est là, je vous rejoins, c'est assez imbécile. facile.
Et l'apartheid, mais c'est insulter tous les Sud-Africains.
Aussi, voilà. Mais il n'empêche qu'il y a certaines bonnes questions qui sont posées et qui devraient être posées. Je suis pas sûr que ça fait tant consensus que ça. Et si ça fait consensus, bah, les Français ont tort, parce qu'ils devraient s'interroger. Un pass sanitaire, c'est pas anodin. Et vous, Noron Neumann, on aurait parlé de ça, avant la crise du Covid il y a 2 ans. Vous auriez dit, c'est de la science-fiction. On est chez Orwell. C'est un scandale. Donc, non, il ne faut pas banaliser ce genre de choses-là. Alors, ça crée pas l'apartheid, mais ça crée deux catégories de Français dans une France qui est déjà fracturée. Je suis pas sûr que ce soit bienvenu. Ça, c'est une société du contrôle permanent. Voilà. Moi, je n'aime pas le climat qui est en train de s'installer depuis la crise sanitaire. D'autant plus qu'on n'est pas confronté à la peste noire. D'autant plus que, moi, je pense que si les personnes à risque sont vaccinées, on peut juguler l'épidémie. Donc, il y a une politique de la peur que je trouve malsaine et pas très démocratique, pour tout vous dire. Ça ne veut pas dire que c'est une dictature, mais ce n'est pas la démocratie que j'aime.
On va aller au 32-16 dans un instant, mais avant, Lisa Marie, bonjour, on peut voter sur les réseaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce 14 juillet, on vous pose la question, les anti-Macron dépassent-ils les bornes? Vous pouvez nous répondre sur Facebook, sur Twitter et sur l'application RMC.
Et avant d'aller au 32-16, on est avec Jérémy Trottin, bonjour, chef du service politique de bonjour. RMC. Est-ce qu'il y a une espèce de force politique des anti-vaccins qui représente quelque chose d'homogène, ou c'est juste des individualités qui s'expriment et parfois de manière outrancière?
Ah, c'est une galaxie. Déjà, il y a d'une part en effet des Français qui sont contre le vaccin, la vaccination. Alors ceux-là, ils sont différents. Et puis vous avez en effet des individualités que l'on retrouve à la fois sur les réseaux sociaux et qui ont parfois à la fois pignon sur rue et qui sont parfois présents aussi dans des manifestations. Il y a notamment le chanteur Francis Lalanne, très opposé à tout ce qui est vaccin, mesures contre le pass sanitaire, les masques et j'en passe. Il y a aussi cette généticienne qui a fait souvent, qu'on retrouve sur des estrades, mais qui s'appelle Alexandra Henrion-Claude. Elle était généticienne donc, ancienne proche d'Axel Kahn, et elle a changé complètement de discours, et aujourd'hui elle est complètement opposée à tout ce qui est masque, là encore, vaccination, passe sanitaire, et j'en passe. En tout cas, on voit que c'est une forme de galaxie, mais il n'y a pas d'homogénéité, et même s'il y a des personnalités politiques comme Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Michel Rivasi, mais qui sont en réalité tous d'un parti différent, il n'y a pas de courant politique qui, pour le moment, fédère ces anti-vaccins. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas à l'approche de la présidentielle, parce que bien sûr c'est une tendance peut-être de fond, même si elle est sans doute ultra minoritaire dans le pays. Certains chercheront à la récupérer électoralement. Vous savez, dans 9 mois, c'est la présidentielle, donc ils vont pas se priver, certains, d'aller chercher, ou du moins tenter d'aller chercher ces voix. Mais tout à l'heure, on disait ces anti-Macron, anti-vax, en réalité, ce sont des anti-systèmes. C'est même pas sûr que ces gens-là ont l'intention de constituer la moindre force politique, et encore moins l'intention de se rendre aux urnes. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas mettre une forme d'effet loupe sur quelque chose qui existe, mais qui est peut-être ultra minoritaire actuellement dans le pays, si bien sûr on sépare ça des gens qui sont anti-vaccination. C'est pas tout à fait la même chose.
On va aller au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16. Elle était avec Frédéric qui nous appelle depuis Cassis, qui est une infirmière retraitée. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Toi, tu as l'impression que le bon sens a quitté la terre.
Complètement. Je trouve qu'en France, nous avons énormément de chance. On a réussi à avoir un vaccin au bout d'un an à peu près, que c'est une chance, qu'il faut la saisir, qu'il faut essayer tous se mettre en ordre de bataille pour juguler cette épidémie et reprendre une vie normale.
Donc ouais. Quand tu entends des mots comme mesure liberticide, dictature, apartheid,
je pense que
ça résonne comment, toi ?
Je ne connais pas la Corée du Nord ou la Chine ou d'autres pays. Nous sommes un pays démocratique. Je pense que les gens devraient prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur droit. Par contre, pour ne pas mettre les autres en danger, eh bien, il faut qu'ils se retirent un petit peu de la société, en fait. Et le pass santé permet justement qu'on puisse retrouver une vie d'avant, que les commerçants puissent de nouveau travailler. Et puis voilà. Mais dans ces cas-là, ils prennent leurs responsabilités. Ils veulent se mettre à contre-courant. Donc, ils disparaissent un peu du... voilà, ils essayent.
Ouais, c'est marrant, t'appelles ça le pass santé.
Ouais, mais Frédéric, je suis absolument d'accord avec toi et ça me permet de rebondir sur ce que disait Alexandre en présentant son avis. Moi, je suis toujours très, très étonné. Toi, par exemple, qui ne cesse sur tous les sujets d'ailleurs, de dire dans la vie, il y a des droits et des devoirs, ou qui ne cesse de dire la liberté, elle ne va pas sans le sens des responsabilités. Bah oui, ma liberté à moi, ça s'arrête là où commence celle de mon voisin. Mais surtout, l'exercice de la liberté n'est pas possible sans sens de la responsabilité. Et là, on parle que de ça en réalité. En réalité, qu'est-ce qu'on dit aux non-vaccinés ? On dit le problème, c'est que vous mettez en danger tout le monde. Pas parce que, évidemment, les vaccinés à risque, ceux qui sont à risque vont aller se faire vacciner. Mais le problème, c'est que le virus continue à circuler si certains ne se vaccinent pas. Et s'il continue à circuler, bah, il permet la création de variants. Et un jour, on va se taper un variant auquel les vaccins ne répondront plus. Et là, on sera reconfiné parce qu'il y aura 5, 10, 15, 20% de la population qui aura refusé de se vacciner. C'est exactement ce que j'appelle le sens des responsabilités. Parfois, on fait des choses en démocratie, justement. On fait des choses pas pour soi-même, mais pour le voisin, pour les autres. Et ça, j'ai l'impression que ça a totalement disparu. Voilà.
Mais toi, Alexandre, c'est l'idée du sanitaire qui prend le pas sur le politique.
Oui, parce que en fait, Laurent Neumann nous a fait un tableau apocalyptique des choses. On a eu tout dans cette crise. On a eu les rassurés, ceux qui nous faisaient un tableau apocalyptique. Rien ne s'est passé comme prévu. Donc l'histoire du variant mutant qui va tous nous décimer demain. Bon, pour moi, c'est encore de la science-fiction. Il y a eu un discours très longtemps qui a été tenu où il y avait des personnes à risque qui devaient se faire vacciner. On a eu un Emmanuel Macron qui jurait il y a deux mois que jamais il y aurait de passe sanitaire, que ça allait créer deux catégories de Français. C'est pas moi qui ai inventé ce discours, c'était le discours du président de la République. Donc on s'interroge, qu'il y ait débat, c'est un minimum. Alors oui, il y a des mots excessifs, mais c'est comme ça dans le débat politique. Quand il y a un débat politique vif, il y a des mots excessifs. D'ailleurs, ceux qui ont des mots trop excessifs ne permettent malheureusement pas d'avoir un débat serein, parce que c'est vrai qu'ils se prêtent à la caricature que vous vous empressez de faire. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, il y a les anti-vax qui sont zinzin, il y a les anti-systèmes, ça c'est une catégorie que je trouverais plus vaste, qui trouve que peut-être on est mal dirigé, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges politiques et qui ont une défiance vis-à-vis du monde politique qui peut être légitime, compréhensible. Il y a ceux qui ont des peurs légitimes, donc tout ça est complexe, nuancé, et justement c'est, je pense qu'il faut rester dans la nuance. Mais je dirais que ceux qui parlent d'étoiles jaunes, bon, sont grotesques, mais ceux qui en appellent à la morale, qui font des tableaux apocalyptiques comme Laurent Neumann, sont aussi caricaturaux.
Tu me diras ce que j'ai dressé comme tableau apocalyptique. Hein.
T'as dit qu'il allait avoir des variants qui allaient nous attaquer.
Ben oui,
et ça, c'est pas gentil.
Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est les médecins. Hein.
Est-ce qu'on a le droit de se tromper quand on fait de la politique ? Est-ce qu'on a le droit, comme Emmanuel Macron, de changer d'avis ? Ou finalement, comme dit Alexandre, une fois qu'on a changé d'avis, c'est terminé, on n'est plus crédible ?
Non, heureusement qu'on a le droit de changer d'avis, surtout que, comme on vient de le dire autour dans ce studio, rien n'est prévu. C'est-à-dire que ce variant, personne ne l'avait vu venir, mais surtout personne n'en voulait. Donc c'est compréhensible à la fois que vous êtes parfois pris à rebours de vos déclarations. Personne ne le fait de gaieté de cœur. Je prends un peu les propos d'Olivier Véran, même si je ne les partage pas. Mais en tout cas, je ne pense pas, en effet, sincèrement, que le gouvernement fait ça de gaieté de cœur. Et quand on entend des gens qui parlent de dictature, mais réveillons-nous, nous ne sommes pas dans une dictature. Est-ce que vous avez vu des centaines de milliers de personnes descendre dans la rue après la déclaration du chef de l'État ? Ils sont tous allés sur Doctolib. C'est incroyable quand même. Près de 800 000 personnes qui se sont fait vacciner hier. Près de 2 millions de rendez-vous de vaccination. Les gens ont besoin. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui disent « nous sommes dans une dictature », ce sont des gens qui en appellent à l'autorité. Et là, il y a eu un geste d'autorité. Et visiblement, un certain nombre de Français attendaient ce geste d'autorité pour passer justement le cap et aller se faire vacciner.
Deux choses, on est d'accord, je prétends pas que nous sommes dans une dictature, mais enfin, le fait que les gens ne descendent pas dans la rue, c'est pas une preuve. Généralement, dans les dictatures, les gens ont eu mal à sortir dans la rue parce que c'est réprimé. Ce qui n'est pas le cas ici, parenthèse refermée. Alors là, sur la demande d'autorité, je pense que vous avez raison, mais je pense que l'une des raisons de la défiance, c'est que les gens ont le sentiment que l'autorité autorité là s'exerce pour ce qui relève de droits fondamentaux qui soient quand même dans les droits de l'homme, dans la constitution, des choses qui n'avaient jamais été remis en cause, la liberté de circulation, la maîtrise de son corps, enfin etc. Donc c'est quand même un contexte particulier. Et par contre, ils ont l'impression que sur le domaine régalien, sur la sécurité quotidienne, face à l'islamisme, face à un certain nombre de choses, l'autorité ne s'exerce jamais. Donc il est plus facile d'exercer de l'autorité effectivement sur les honnêtes gens que sur les autres.
Et on va continuer à discuter ensemble des mesures de Macron, les mesures sanitaires. Est-ce que vous avez l'impression que certains qui les qualifient de dictature, d'apartheid, de coup d'État dépassent les bornes? Merci beaucoup à Frédéric d'être venu discuter avec nous. Dans un instant, on sera avec Fabrice qui nous attend à Nevers. On vous attend, vous, sur RMC 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Mesures liberticides, dictature, apartheid, coup d'État sanitaire. Les anti-Macron dépassent-ils les bornes? Pour Laurent Neumann, oui, la bêtise n'a plus aucune limite. Pour Alexandre Devecchio, non, même excessif, les propos posent de bonnes questions. Lisa Marie, quelle est la première tendance des votes?
Vous êtes pour le moment 60% à répondre oui. Comme Laurent Neumann, vous trouvez que les anti-Macron dépassent les bornes?
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est toujours avec Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC. Mais on est aussi avec Fabrice qui nous appelle depuis Nevers. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Toi, tu es entrepreneur, Fabrice, et tu es plutôt côté Alexandre Devecchio.
Absolument, parce que moi j'ai une certaine réticence à l'égard de ce vaccin. Alors, je voudrais simplement souligner avant tout, c'est que je ne suis pas un anti-Macron. J'ai considéré que Macron s'était honoré quand il avait privilégié l'humain par rapport à l'économie avec les confinements. Pour la première fois de notre histoire, on avait fait passer l'humain avant l'économie. Et puis, je ne suis pas un anti-vaccin puisque je suis à jour de tous mes vaccins. Et j'ai même un vaccin qui m'a probablement sauvé la vie en décembre 88 quand j'ai fait face à une épidémie de méningite qui avait emporté un de mes camarades. Donc je ne suis pas un extrémiste, simplement je trouve que au départ déjà ce vaccin le vaccin, enfin je vais parler du vaccin Pfizer parce que c'est le plus répandu, et ça a déjà très mal commencé puisque Pfizer les laboratoires en général ont demandé aux États de les décharger de toute responsabilité en cas d'effet secondaire. Déjà ça jette un froid. Et je trouve que c'est quand même le propre de l'intelligence humaine que de douter d'un nouveau vaccin qui est arrivé sur le marché, sur lequel on n'a aucun recul. Hein. Alors il est vrai que si ça avait été marqué, s'il y avait eu le logo Pasteur sur les boîtes de vaccins, on aurait eu plus confiance, puisqu'on a cette image de Pasteur qui est rassurante pour nous Français. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que le climat dans ce pays devient de plus en plus détestable. C'est-à-dire qu'on oppose les vaccinés contre les non-vaccinés, on les traite de complotistes à longueur de journée, et on est en train de fracturer l'unité nationale avec ce sujet. Et ça peut avoir des conséquences assez graves, il me semble.
Alors Fabrice, plusieurs choses. D'abord, une chose, alors je vais y aller avec prudence, mais si ce que j'ai lu est exact, lorsque les laboratoires ont signé les tout premiers contrats avec notamment les États-Unis et Israël, je te confirme qu'ils ont demandé à être déchargés de toute responsabilité en cas de problème, d'effet secondaire, etc. Mais je crois que c'est ce qui explique que le contrat avec l'Union européenne ait duré aussi longtemps, parce que je crois que l'Union européenne ne voulait pas décharger la responsabilité des laboratoires. Mais en même temps, comme personne n'a eu l'occasion de lire le contrat ou les contrats, je peux pas répondre à ta question. Mais
c'est intéressant, ça manque de transparence, Laurent Neumann.
Oui, c'est vrai. Mais ce que j'ai lu des discussions qui ont eu lieu, c'est que justement avec l'Union européenne, ça avait duré plus longtemps. On a suffisamment reproché à l'Union européenne d'avoir retardé la campagne de vaccination à cause d'une signature de contrat qui est venue tard. Et moi, j'ai cru comprendre que l'une des raisons, c'était justement qu'il y avait eu bras de fer. Bagarre avec les labos. Mais
j'ai aussi lu
qu'il
tirait les prix. Mais...
Alors ça peut éveiller les doutes, hein. on est d'accord. Et puis ce que je veux dire, on parle d'un emballement de vaccination que le président Macron a convaincu les Français. Il ne les a pas convaincus.
Quand
vous posez la question à des gens qui sont vaccinés, ils vous diront on est bien obligés, on ne pourra plus rien faire. On n'a pas le choix. Donc, ils ne font pas ça par conviction, ils le font par obligation. Donc il n'y a pas d'adhésion à ce vaccin.
Oui, mais Fabrice, le point de départ de ce raisonnement, c'est quand même de dire il y a le vaccin et c'est une chance extraordinaire. Il faut par tout moyen convaincre les gens d'aller se vacciner. Alors on les convainc, c'est ce qu'on a fait pendant 6 mois. Je te rappelle quand même qu'en décembre dernier, sondage Elab pour RMC et BFM TV, il y avait 34% des gens qui étaient prêts à aller se faire vacciner. On est aujourd'hui le 14 juillet, dernier sondage, 79% des gens sont prêts à aller se faire vacciner.
Ça veut dire que c'est le travail de conviction, mais c'est pas l'obligation de c'est pas le pass sanitaire. Les 2 millions là, c'est des gens qui ont eu peur de pas pouvoir partir en vacances.
Tu as raison Alexandre, mais ceux qui expliquent qu'on n'a pas fait le travail de conviction, mais Macache, bien sûr qu'on l'a fait ce travail, tout le monde l'a fait et d'ailleurs ça a marché. Et deuxièmement, on passe à l'étape suivante. Effectivement, tu as mille fois raison, le pass sanitaire, c'est d'abord fait pour obliger les gens à aller se faire vacciner. C'est l'absolue vérité. Ce qu'il a fait lundi soir, ça s'appelle un électrochoc. Ben voilà, ça a marché. 2 200 000 personnes sont allées se faire vacciner. Donc ça veut dire qu'on est en train d'accélérer et de convaincre non pas les anti-vax, mais les hésitants, ceux qui procrastinaient, ceux qui disaient je le ferai à la rentrée, je verrai ça après les vacances. Voilà ce qui s'est passé, c'est tout, rien de plus.
Était-ce bien nécessaire ? Toute la question est là.
Une question politique pour Jérémy. Jérémy, quand on voit les antisystèmes s'exprimer sur les réseaux sociaux, on a un miroir déformant. Je rappelle qu'il y a quoi, 10% des tweets qui sont écrits par 80% de la communauté Twitter. En fait, il y a très peu de gens qui s'expriment. Mais est-ce que ça fonctionne d'être antisystème ? Est-ce que par exemple Florian Philippot, sa boutique fonctionne bien ? Ou en fait, en réalité, c'est pas parce qu'il a 270 000 vues sur une vidéo où il dit c'est une dictature, c'est scandaleux. En fait, on regarde, mais il n'y a pas d'adhésion.
Florian Philippot, c'est assez simple. Il a été candidat au régional il y a 5 ans dans le Grand Est. Il était en passe de gagner un duel. Enfin, c'était en triangulaire. 5 ans plus tard, il a quitté le Rassemblement National. Il est à 7%. En réalité, c'est pas uniquement les idées que vous portez qui vous apportent des voix électorales. Il occupe un créneau, Florian Philippot. Et il espère, il cherche
ce créneau.
Un créneau
de quelle taille? C'est ça ma question.
Ça fait 7% dans le Grand Est. Au niveau national, je sais pas combien ça peut faire. On verra s'il est candidat sous l'étiquette Les Patriotes en 2022. En tout cas, il cherche sa place dans une galaxie qui est assez nombreuse. Il cherche sa place à la droite de Marine Le Pen. Il cherche sa place aussi aux côtés dans une galaxie qui est occupée à la fois par Nicolas Dupont-Aignan et peut-être bientôt par Éric Zemmour. Donc, c'est difficile de voir si ça aura des retombées électorales. En tout cas, c'est une façon pour lui d'exister à la fois sur les réseaux sociaux et de ne pas mourir médiatiquement, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il n'a quasiment plus de mandat. Donc, voilà. Enfin, il y a un moment, c'est aussi une façon pour lui d'exister politiquement, et c'est une façon pour lui d'être invité dans différents.
Mais soyons clairs. Quand Nicolas Dupont-Aignan dit que les mesures prises par Macron sont contraires à nos règles, à la liberté notamment, mais il y a débat. Moi, je veux bien qu'on en débatte. C'est un vrai sujet. En revanche, quand il parle de coup d'État sanitaire ou quand d'autres parlent de dictature, là, tout à coup, ça n'a plus aucun sens. Là, il n'y a pas de débat. Il peut pas y avoir de débat puisque tout le monde sait que c'est pas vrai. Il suffit de sortir dans la rue ce matin pour savoir qu'il y a pas de dictature. Donc il y a plus de débat. Il peut y avoir débat sur le fond. Moi je veux bien débattre avec toi, Alexandre.
Non mais on peut jouer sur les mots.
S'ils sont convaincus de ce qu'ils disent, de ce qu'ils défendent, des idées qu'ils défendent sur la liberté. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils dévalorisent leur position. Il n'y a plus de débat une fois qu'ils ont dit ça. C'est terminé. Donc eux-mêmes se tirent une balle dans le pied.
Je suis un peu d'accord, puisque je suis parmi ceux qui détestent la diabolisation. Mais enfin, c'est une tactique qui a été employée par une partie du monde médiatique, du monde politique depuis des années. C'est pas très nouveau.
Mais attends,
c'est pas parce qu'aujourd'hui ce sont des antisystèmes, qu'il faut leur jeter plus la pierre qu'aux autres. Autrefois, après, je rejoins ce qui a été dit.
Alexandre, Philippot tente d'occuper
un créneau, mais il ne fait pas trembler la République. On voit bien qu'il est extrêmement minoritaire aujourd'hui dans le débat.
Même le mot que tu viens d'employer est risible. Okay. S'entendre dire que Nicolas Dupont-Aignan est antisystème. Mais j'ai envie de me rouler par terre. Il est député, il a été élu maire, il est à la télévision matin, midi et soir. Mais où est-ce qu'il est anti-système ?
Il a fait l'ENA, non ?
Même ce mot-là est une blague.
Oui,
je parlais
de la galaxie anti-système, puisque c'est comme ça que vous les avez désignés. Moi, je pense que c'est excessif, mais je rappelle, voilà, toujours que De Gaulle, qui a libéré la France, c'est pas le cas d'Emmanuel Macron, a été longtemps traité de fasciste, de dictateur. C'est quelque chose de très très banal dans le débat français. Ça n'a pas grand chose à voir avec les réseaux sociaux, ni les complotistes.
Bah, tu vois, quand j'entends les anti-vaccins dire qu'ils entrent en résistance, pardon, De Gaulle, quand il part à Londres, lui, il est anti-système. C'est ça, l'anti-système. C'est oui, pas les résistants de la dernière heure là qui luttent contre un supposé ennemi qui serait le vaccin.
Je suis bien d'accord, ce qui n'empêche pas de débattre sur le fond des choses. Et effectivement, on met à mal, peut-être pour de bonnes raisons, peut-être va-t-on trop loin, des libertés fondamentales qui n'avaient jamais été remises en cause jusqu'ici dans une démocratie. Parce que la démocratie, c'est la souveraineté populaire. J'y suis très attaché.
C'est
souvent,
pas tout à fait vrai, parce que le pass sanitaire...
Mais c'est aussi les libertés fondamentales. Et de plus en plus, d'ailleurs... Ces dernières années, la tendance de la gauche était de mettre en avant les droits individuels, etc. Donc, ça va être intéressant parce qu'après, certains qui ont défendu les droits individuels à tout prix, y compris dans des affaires de terrorisme, j'espère qu'ils feront leur autocritique après cette crise,
tu sais,
et qu'ils arrêteront de nous bassiner, enfin, qu'ils seront logiques avec les libertés individuelles quand il y a une menace collective pour l'intérêt général.
Tu sais qu'Emmanuel Le Chypre serait là, il te dirait, mon petit Alexandre, pourtant, il pourrait défendre ce que tu défends, mais il te dirait qu'il y a une grande démocratie qui utilise le pass sanitaire depuis des années. C'est la Corée. La Corée du Sud, évidemment. La Corée du Sud, le pass sanitaire, le QR code pour rentrer dans les... Et c'est une grande démocratie.
Oui, elle est en guerre avec la Corée du Nord depuis des années.
Non, je te parle de raisons sanitaires. Ils en sont à la quatrième pandémie, eux. Donc oui, ils connaissent, ils savent
moi,
comment ça
marche. Moi, j'aime bien le modèle de la Corée du Sud, protectionniste, etc. Ça me gêne pas, mais ça m'amuse de voir Laurent Neumann et d'autres défendre tout d'un coup la Corée du Sud comme un modèle. Voilà, non, c'est précisément ce que je disais.
Je pense que ça ne viendrait à l'esprit de personne de dire que la Corée du Sud est une dictature.
Il y a quelques dents, ceux qui se proclamaient grands démocrates. Voilà, dès qu'on remettait en cause un certain nombre de droits individuels, même de droits nouveaux, on parlait de pas de dictature, mais voilà, il y avait des accusations.
L'état d'urgence sanitaire est exorbitant du droit commun, je te l'accorde. Comme l'est l'état d'urgence tout court au moment des attentats. Heureusement qu'à un moment donné, on sort de l'état d'urgence. C'est provisoire. Moi non plus, ça me plaît pas, ces méthodes. Moi non plus, ça me plaît pas, les confinements, les couvre-feux. C'est attentatoire à mes libertés individuelles. J'en ai aucun doute. T'as mille fois raison. Et il doit y avoir débat là-dessus. Mais la question, c'est pourquoi on le fait? On le fait parce qu'il y a 110 000 morts. Et on le fait parce qu'on l'a confiné.
Pourquoi,
il y a
eu des pourquoi ça aussi, c'est un des objets du débat. Est-ce que la pandémie est si létale, si grave, qu'il fallait le faire, qu'il fallait aller aussi loin? Et la deuxième question, c'est comment on en sort? Qu'est-ce qui restera de tout cela? Donc c'est très bien que des gens rappellent, pas forcément comme Nicolas Dupont-Aignan, mais un certain nombre de garde-fous.
Jérémy, dernier mot, l'état d'urgence, ça fait combien de temps que ça dure?
Ça dure depuis maintenant l'année dernière, au mois de mars, il avait été décrété, mais depuis nous sommes quand même dans un régime d'état d'urgence sanitaire transitoire, hein, c'est-à-dire que le gouvernement n'a plus du tout les mêmes outils qu'il avait il y a quelques mois. Par exemple, aujourd'hui, c'est impossible pour lui d'imposer un couvre-feu sur l'ensemble du territoire. Les seuls pouvoirs dont il dispose actuellement, c'est de pouvoir imposer un couvre-feu uniquement sur 10% du territoire.
Merci beaucoup Jérémy Trottin de nous avoir accompagné, chef du service politique d'RMC. Un grand merci à Fabrice qui était avec nous juste auparavant. Dans un instant, on sera avec Renaud qui habite à Achères dans les Yvelines et qui dit qu'il faut... Qu'est-ce qu'il dit Renaud, il propose... Je suis extrêmement fatiguée, je vous la refais. Renaud, il explique qu'on ne peut plus... il nous expliquera lui-même parce que moi,
j'arrive pas. Il faut arrêter de râler, il faut être constructif.
Voilà, merci, à tout de suite sur RMC.
Midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Mesures liberticides, dictature, apartheid, coup d'état sanitaire. Les anti-Macron dépassent-ils les bornes? Pour Laurent Neumann, oui, la bêtise n'a plus aucune limite. Pour Alexandre Devecchio, non, même excessif. Les propos posent les bonnes questions. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on était avec Renaud qui nous appelle depuis Achères dans les Yvelines. Bonjour Renaud.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Salut Renaud, toi tu travailles dans la comptabilité financière et tu as l'impression que dans ces mots, il n'y a rien de constructif.
Oui, tout à fait, c'est ce que je pense. Je vous fais juste un petit topo. Moi, je ne suis pas dans la psychose, hein, je n'ai pas particulièrement à me faire vacciner. Je considère qu'à mon âge, pas particulièrement à risque, en bonne santé. Et je le mettais pro-vaccin à tout prix. Mais je suis pas non plus macroniste dans l'âme. Mais je voulais juste faire un petit topo. Quand tout ça, ça a commencé, on a fustigé à tort le fait qu'on n'avait pas de masque. Alors c'était un héritage des gouvernements précédents. Et on a bien rigolé avec Tibet India qui nous expliquait qu'on était trop bêtes à l'époque pour mettre des masques.
Ouais.
Bon, une fois qu'on en a eu, par contre, moi j'en voyais plein où ils ne les portaient pas. Donc déjà, je ne comprenais pas l'intérêt de fustiger le fait d'avoir des demandes de masques et après de ne plus pouvoir les porter. Mais en plus, après, ça a continué puisqu'on a dit bah, « il n'y a pas de vaccin ». Très bien, il n'y a pas de vaccin. Et puis, une fois que les vaccins arrivent, on dit « ah oui, mais non, finalement, mais les vaccins, on n'est pas sûr ». Mais il y a des doses disponibles, il faut y aller. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas faire que râler, quoi. Il faut faire quelque chose de constructif, il faut avancer. Moi, j'ai juste relevé un petit truc de Javan Bardella. Alors bon, ça aurait pu être n'importe qui, mais je vois, début janvier, il dit qu'on est la risée du monde. Alors je vais bien l'entendre, pas de problème, on n'a pas de vaccin. Au mois de mai, il nous dit que la campagne de vaccination avance à la vitesse d'un escargot. Et hier, il nous raconte qu'il y a une justice à la brutalité du gouvernement n'obligeant le pass sanitaire. Donc, si ça, c'est l'opposition, écoutez, sincèrement...
T'as l'impression que c'est que de la critique, en fait, en permanence.
C'est que de la critique, il n'y a aucun pragmatisme. Et puis, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que les plus faibles d'entre nous, finalement, on s'en fiche. On se balade tous dans la rue et on laisse faire dans ces cas-là. Mais après, ce qui va se passer, c'est que si on fait ça, il y en a qui vont se retourner sur le gouvernement en leur disant « ah, bah vous n'avez rien fait ».
Mmh. Donc, d'ailleurs Renaud, tu élargis, tu parles de façon générale des oppositions. Après l'allocution d'Emmanuel Macron, bon, évidemment, là, on en débat, j'ai été frappé de la violence de certaines réactions, apartheid, dictature, très bien. Mais j'ai été aussi frappé du silence d'un certain nombre de personnalités politiques, de droite comme de gauche,
de premier plan,
qui sont, qui sont possiblement candidats à l'élection présidentielle et qui, pour le coup, n'ont rien dit du tout.
Mais c'est quand même étonnant. Il ne va pas se mettre en porte-à-faux. Je suis sûr qu'il pense la même chose, mais qu'il ne veut pas se mettre le peuple à dos si jamais le peuple pense différent d'eux. C'est tout, c'est juste ça. C'est un manque de courage pour moi.
Ouais. Et Alexandre, je reviens deux secondes vers toi. Tu fais partie de ceux, et je suis souvent de ton avis pour ça, pour le coup, qui dénoncent la dictature des minorités.
Ouais.
Hein, souvent tu le fais et souvent je suis d'accord avec ça. Moi j'en ai marre que sur des tas de sujets ce soit toujours les minorités qu'on entend le plus, celles qui crient le plus fort, qui ont raison et à qui on donne raison. Mais là il se passe quoi? Les anti-vaccins, c'est la dictature de la minorité. Alors peut-être une grosse minorité, mais il n'y a plus que 20% des gens qui veulent pas se faire vacciner. C'est une minorité en démocratie. Et pourtant, on n'entend qu'eux, et il faudrait appliquer la politique gouvernementale, le mettre en danger 100% de la population pour cette minorité. C'est ça la dictature des minorités.
Il y a une différence entre les anti-vaccins et le fait d'accepter ou non le pass sanitaire. Moi-même, je vais me faire vacciner, mais je trouve que le pass sanitaire, c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution, qui peut fracturer la société et qui n'était pas forcément nécessaire pour le moment. Donc oui, en démocratie, c'est normal qu'il y ait des avis différents qui s'expriment. Quand je parle de dictature des minorités, je parle aussi sur des questions identitaires, des gens qui confondent d'ailleurs le débat démocratique avec des identités figées, essentialisées, et qui prétendent être représentatives de telle couleur de peau ou de telle orientation sexuelle. C'est quand même un débat un peu différent que là, un débat sur des mesures à prendre ou à ne pas prendre. Évidemment que la majorité doit avoir gain de cause à la fin. Mais je suis pas sûr que la majorité soit aussi écrasante que vous le prétendez. Les sondages sont à manier d'autant plus avec précaution qu'au moment du confinement, Jean disait, oui, si on est obligé d'être confiné, on ne va pas enfreindre la loi. Ça ne veut pas dire qu'ils trouvaient que c'était la solution idéale ou qu'ils approuvaient. Donc, et là, c'est pareil. Le pass sanitaire fait que des gens ont pris rendez-vous sur Doctolib immédiatement, mais c'est quand même sous la contrainte. Donc, je pense qu'on n'est pas dans une histoire de dictature des minorités, là. Et enfin, certes, je trouve que la majorité n'a pas assez voix au chapitre dans la démocratie telle qu'elle est actuellement, mais la démocratie, c'est aussi des libertés individuelles, des droits fondamentaux qui sont au-dessus de la majorité. Sinon, on est dans le despotisme de la majorité qui n'est pas souhaitable non plus.
Merci beaucoup, Renaud, d'être venu débattre avec nous dans Domaine Le Chypre. On était avec Malik qui nous appelle Descouens dans le Val d'Oise. Bonjour, Malik.
Oui, bonjour.
Thomas Malik, tu es informaticien, tu es plutôt côté Alexandre Devecchio.
Oui, tout à fait. Je pense que...
Mais par contre, il faut que tu te rapproches de ton téléphone parce qu'on t'entend loin dans ta salle de bain, là.
Là non, non.
C'est mieux, c'est beaucoup mieux.
Je
ne
suis pas dans
Malik.
Ma salle de bain.
Ah,
là,
c'est
vous
mieux.
M'entendez un peu mieux.
Ouais, c'est mieux,
d'accord.
C'est mieux.
Je disais, c'est un débat qui est assez... C'est-à-dire qu'il faut manier vraiment les mots assez, de façon assez précautionneuse, si je puis dire. Parce que je suis le premier à respecter les droits des minorités en général et leur avis. Je pense que la pensée unique, il n'y a pas pire. C'est-à-dire qu'essayer de convaincre tout le monde, que tout le monde soit d'accord avec nous, que les bénéfices du vaccin et tout ça, et ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourra jamais y arriver et c'est d'autant mieux, je dirais, parce que les discordances sont là pour éventuellement pour le bien de la société en général. Par contre, là, on est dans des situations. De toute façon, il faut prendre une décision. On voit que les cas augmentent. On n'est pas sûr, mais on pense, et je pense que c'est quand on écoute un petit peu les spécialistes dire qu'il y a probablement une autre vague qui va arriver au mois de septembre. La question est simple. Est-ce qu'on laisse ce droit aux minorités en faisant prendre le risque à une majorité de perdre plusieurs droits? Parce que nous, au mois de septembre, on risque de perdre le droit d'aller voir un match, le droit d'aller voir au restaurant, le droit d'aller au cinéma, le droit de sortir chez soi. Il y a plein de droits qu'on risque de perdre. Donc là, c'est faire la balance.
Excellente question. C'est tout ce que je disais tout à l'heure. Liberté, responsabilité. Est-ce que pour sauvegarder les libertés aujourd'hui, on prend le risque de supprimer encore plus de libertés à la rentrée? En gros, c'est simple. Est-ce qu'il vaut mieux pousser de façon un peu contraignante à la vaccination maintenant ou confiner dans 2 mois? Moi, je pense que c'est pour ça que les Français... La vraie raison de la vaccination...
Vous voyez bien qu'il y a une forme de chantage là-dedans et qu'on n'est pas
d'accord
sur le diagnostic, sur la nécessité de reconfiner demain, sur le fait qu'il va y avoir une vague très importante qui va emboliser l'hôpital. On n'est pas sûr de tout ça. Donc, c'est sur ces points-là qu'il y a débat. Enfin, tout à l'heure, on parlait des libertés, des minorités, etc. Une démocratie, c'est aussi un certain équilibre des pouvoirs avec un certain nombre de contre-pouvoirs. Et on ne peut pas se satisfaire d'être gouverné durablement par un comité scientifique et un conseil de défense, que le Parlement soit sous les ténoirs. Voilà, tout ça mérite d'être soulevé et mérite débat. Ça ne veut pas dire qu'on est en dictature.
Ouais, sauf qu'à un moment, il faut quand même prendre une décision.
Allez, on continuera de débattre tout à l'heure à 13h. Mais avant, Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Je vous rappelle la question. Les anti-Macron dépassent-ils les bornes? Et vous êtes finalement 75% à avoir répondu comme Laurent Neumann. Oui, pour vous, les anti-Macron vont trop loin.
Les Français sont doués de raison.
Surtout quand ils sont d'accord avec toi.
Tu as remarqué.
On va jouer au C'est quoi ça?
RMC Neumann Le Chypre.
Le C'est quoi ça?
Et on joue au C'est quoi ça aujourd'hui pour gagner un pass de 2 jours pour 4 personnes au Futuroscope avec nuit incluse. On joue avec Aurélie et Mathieu. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Aurélie, bonjour. Toi tu es coiffeuse, tu nous appelles de Roanne dans la Loire. Tu veux jouer avec Laurent ou avec Alexandre?
Avec Laurent.
Ah, mais moi, je suis le chef du syndicat des coiffeurs.
Aurélie, c'est vrai.
Salut Aurélie.
Mathieu,
salut.
Toi, tu travailles dans le commerce, tu es à Nantes et tu joues donc avec Alexandre. Première salut. Question entre Aurélie et Mathieu. Alors, il n'y a plus de football, donc la première question n'est pas une question de football. Vous buzzez bien avec votre prénom avant de donner votre réponse, Aurélie et Mathieu. Première question, où s'est déroulée la traditionnelle parade militaire du 14 juillet?
Aurélie.
Mathieu.
Aurélie.
Paris, sur les Champs-Élysées.
Premier point pour Aurélie.
Il n'y avait pas de piège, c'était la dernière question d'hier.
Absolument, absolument. Je vois que tu es attentif, c'est vrai, il a raison Alexandre, c'était la dernière question d'hier.
Question entre Laurent et Alexandre, après leur pari avec Emmanuel Macron, comment
Laurent.
Ça...
Laurent.
Oui.
Carlito et McFly. Là.
Carlito et McFly qui ont volé
je
avec
dormais,
la patrouille de
pas,
France. Tu dormais. Tu fais des micro-siestes alors.
J'ai même pas vu qu'on passait à la deuxième question.
Question entre Aurélie et Mathieu. C'est donc la troisième question pour ceux qui dorment comme Alexandre. Quelle actrice française a monté les marches hier soir pour son long métrage inspiré de la vie...
Aurélie. Vas-y. Sophie Marceau.
Non, inspiré de la vie de Céline Dion.
Je sais aussi.
Ah, je sais qui c'est.
Non, on n'a pas le droit de répondre. Elle a joué dans Les Visiteurs.
Aline, oh.
Mais le premier épisode.
Valérie Mercier.
Oui, Mercier.
Ah, bien joué. C'était un travail d'équipe.
Non, mais Aurélie, elle avait sur le bout des lèvres.
Ah oui, carrément, je voyais sa tête. Et je voyais son accent aussi quand elle le faisait.
Question entre Laurent et Alexandre. Quelle entreprise américaine
Laurent.
Oui.
Google.
A été condamné à payer 100 millions de rames. Mais non, c'est Google, il a raison. On peut faire la liste de toutes les entreprises américaines que tu connais, mais non, c'est Google. On est
non, mais j'ai très peur un jour qu'il y ait une enquête pour dopage, parce que je suis trop dopé là, je pense.
Ah, ok, toi
ouais.
Oui, ça va. Bon, t'as pas peur
Non.
T'as pipi dans un tube pour prouver que t'avais les bonnes réponses. Question entre Aurélie et Mathieu, on était à 2 points partout.
Non, on est à 3-1.
Oui, on est à 3.
Il fait l'arbitre en plus maintenant,
Merci.
Laurent.
Non, mais on est à 3 avec le point Google que je ne t'avais pas mis, on est à 3.
C'est vrai.
Question entre Aurélie et Mathieu. Contre quelle équipe l'équipe de France de rugby s'est imposée hier pour...
Mathieu. Australie.
Oui, pour leur deuxième match test, l'Australie. On est donc à 3-3.
Non, 3-2. 3-2. 3-2.
Bah non, oui. Puisque Mathieu vient de mettre le point.
Bah oui, ça fait, il y avait 3-1, ça fait 3-2.
3-2.
Aïe. Aïe, aïe, aïe.
C'est toi qui vas être obligé d'aller faire pipi dans un tube.
Ouais, mais alors pas pour montrer que je suis dopée. Pour montrer, ils vont voir qu'il faut vraiment que j'aille me coucher. Question
entre Laurent et Alexandre.
Entre Laurent et Alexandre, qui est la présidente de la région Île-de-France?
Valérie Pécresse.
Valérie Pécresse. On est donc à 3-3.
Ah bah là, t'as réussi. Là, on
la
est à 3-3.
Remontada, on va y arriver, Mathieu.
Et du coup, Aurélie, tout va dépendre de toi.
Okay.
Alors, vous êtes prêts, Aurélie, Mathieu, cette question pour vous départager. Qui anime l'Intégral Tour sur RMC?
Aurélie.
Mathieu, t'as pas une idée?
Moi, je sais. Hein.
Tour ou... Comment ça se trouve? Ah, j'ai le bout de la langue.
Moi, je sais.
Ouais, mais ça compte pas, Laurent.
Ah, bah si.
T'as donné, bah non.
Bah, je le prends, Aurélie.
Ah, bah, si, je l'ai.
C'est Christophe Cessieux. C'est Christophe Cessieux qui fait l'Intégral Tour. Alors, je vous en fais une autre.
Pour qui? Pour Aurélie et Mathieu?
Non, pour Laurent et Emmanuel.
Alors, non, entre Aurélie et Mathieu, vous n'avez pas l'air très branché vélo, donc on va faire plus simple. Qui présente la matinale sur RMC?
Oh, punaise.
Ça commence.
Nicolas Dupont? Aurélie?
Non,
la matinale, c'est
Qui présente?
Qui présente la matinale sur RMC?
C'est dur.
C'est pas Jean-Jacques Bourdin, c'est juste avant.
Ah, je crois savoir.
Aïe, c'est Mathieu qui a gagné.
C'est donc Mathieu, alors. C'était dur. Hein. Il avait fallu compter les points, c'était dur.
J'avais hésité avec Bourdin.
Ah, bah oui, mais c'est juste avant. Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu. C'est toi qui gagne ton voyage au Futuroscope.
Désolé, Aurélie.
Pour 4 personnes, tu vas pouvoir dormir là-bas.
Même dopé, Laurent Neumann n'y arrive plus.
Non.
Le C'est quoi ça sur RMC avec le Futuroscope. Embarquez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars et devenez astronaute. Sensation garantie. Futuroscope, toutes les forces d'attraction.
Restez avec nous, dans un instant on va continuer à parler sanitaire, du pass sanitaire au quotidien. Est-ce que les mesures sont applicables dans les restaurants, dans les trains, au quotidien? Pour Laurent, oui, mais finalement peu importe, le but c'était de créer un électrochoc. Pour Alexandre Devecchio, non, c'est totalement kafkaïen. On sera notamment avec Jean-Jacques Samois, le patron du café du coin d'en bas de la rue, du bout de la ville, d'en face du port à Saint-Malo. Il est remonté comme un coucou suisse contre le pass sanitaire. On revient à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre. RMC, midi, 14h, Neumann Le Chiffre.
Laurent Neumann, Alexandre Devecchio et Laure Clausier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver en ce 14 juillet. C'est Laurent Neumann.
Salut à tous, joyeuse fête nationale. Et Alexandre Devecchio.
Bonjour à tous, c'est Laure Clausier. On est ensemble jusqu'à 14h. Passe sanitaire au quotidien. Les mesures sont-elles applicables? On en parle dans un instant. Mais à 13h50, c'est bon à savoir de l'info et de la bonne humeur avec Lisa Marie Marquez. Lisa Marie, on parle de quoi aujourd'hui?
On va partir à Cannes au festival sur le tapis rouge. Cette année, les festivaliers doivent payer une taxe carbone, figurez-vous.
Mais donc avant, on va revenir sur les mesures sanitaires. Alors je vous résume avec les évolutions d'hier, parce qu'il ne faut pas rater une minute des annonces du gouvernement. À partir du 21 juillet, passe sanitaire nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture, y compris les parcs d'attractions. Début août, passe sanitaire dans les cafés et les restaurants, même en terrasse, ainsi que dans les centres commerciaux. Avant d'obtenir le passe sanitaire, il faut avoir deux doses et donc respecter le délai entre les deux doses. Pour les adolescents, après un peu de tergiversation hier, le passe sanitaire sera obligatoire à la fin août. Idem pour les salariés qui fréquentent, enfin les salariés des lieux qui ont du public. Après le week-end du 1er août, il sera aussi obligatoire pour prendre le train, ce passe sanitaire. Et dans la pratique, les contrôles, ça va être très compliqué. Écoutez, Jean-Carles Millet, secrétaire fédéral de l'UNSA Ferroviaire, pour lui, c'est carrément impossible.
Aujourd'hui, c'est la surprise qui nous anime. Ce gouvernement a pris ses décisions sans écouter les agents de la SNCF. Alors, il faut savoir qu'un contrôleur qui doit contrôler avec son équipe, notamment les trains à réservation obligatoire, doivent contrôler quand même beaucoup de choses, beaucoup d'items. La sûreté, la régularité des billets, les cartes de réduction, les tarifs personnalisés de chacun des voyageurs. Et très souvent, ils n'ont pas le temps de contrôler l'ensemble des rames. Alors la question, c'est... Ok, très bien, on découvre ça, mais qui va contrôler ? Les contrôleurs, je pense qu'ils ont assez à faire. Ils n'ont pas à se mettre en risque à contrôler des QR codes et ils font déjà face à de nombreux comportements d'incivilité.
Jean-Carles Millet qui était sur France Info ce matin. Alors notre question, les mesures sont-elles applicables ? Laurent, tu dis oui, mais finalement peu importe.
Ah oui, exactement, peu importe, on s'en fout de savoir si c'est applicable ou pas.
Bon,
c'était pas le but. Le but c'est pas d'aller fliquer les gens, le but c'est pas d'emmerder les consommateurs ou pire les restaurateurs ou les usagers du train. Le but du jeu c'était de créer un électrochoc et de dire aux gens allez-vous vacciner ? On est à la dernière étape avant la vaccination obligatoire. En plus, il a pas pris les gens en traître, Macron. Il a commencé là-dessus dès le début de son allocution. Il leur a dit, c'est la première étape. Et puis, dans quelques mois, on va commencer à discuter de la vaccination obligatoire. On verra s'il est utile d'aller jusque-là. Donc, tout le monde a compris, d'ailleurs. Les gens ont parfaitement compris. Ils ont compris qu'il fallait aller se vacciner. Ça y est, on n'a plus le temps d'attendre. On n'a plus le temps de repousser ça à demain ou pire, à après les vacances. Et d'ailleurs, 2 200 000 prises de rendez-vous depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est la preuve que tout le monde a compris. Et je peux vous dire que ça va continuer. Les gens vont aller se faire vacciner. Alors, j'entends notre ami de la SNCF, mais en vérité, qu'est-ce qui va se passer dans les trains ? On va faire des contrôles aléatoires. On va pas vérifier le pass sanitaire de tous ceux qui montent dans le train. Qu'est-ce qui va se passer dans les restaurants ? J'ai discuté tout à l'heure avec un responsable d'un syndicat policier. Impossible d'aller contrôler tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des contrôles médiatiques. On va appeler les chaînes de télévision. On va leur dire, regardez, on est en train de faire un contrôle. On va coller des amendes. Et tout le monde va se dire, mince, ça peut nous tomber dessus. Donc, on va respecter le truc. Le but du jeu, ça va pas être d'emmerder les gens matin, midi et soir. C'est juste qu'ils aillent se vacciner. Et de ce point de vue-là, que ce soit applicable ou pas, je vais vous dire, on s'en fiche.
Ça participe, moi, de mon agacement pour cette manière de faire de la politique. C'est le contraire de l'autorité de l'État. On est dans un État tatillon, arbitraire, finalement assez impuissant, infantilisant.
Non, ce qui serait tatillon
aussi,
c'est d'aller vérifier les passes sanitaires de tous les Français tout le temps.
Infantilisant aussi, et vous le dites, et quant à la mise en scène médiatique, bon, c'est bien de le préciser, mais c'est pas ma façon de faire de l'information. Donc oui, moi je préfère un État, des politiques qui prennent les citoyens pour des citoyens qui ont un esprit critique avec lesquels on peut discuter. Quand on met une règle, c'est pour qu'elle soit appliquée, pas pour faire le show à la télévision, pas pour faire peur. Ça, voilà, on a l'impression que qu'on est des enfants et qu'on nous dit attention, on va vous taper sur les doigts si vous êtes pas sage. Voilà,
mais quand tu vois que ça marche,
c'est
tu
pas
dis
ma
quoi
conception de la France.
Mais quand tu dis que ça marche, tu dis quoi? Tu changes pas d'avis?
Oui, mais moi, j'étais pas forcément d'accord sur le diagnostic. Je pensais qu'on avait le temps et qu'on n'était pas, il y avait pas urgence à en arriver là.
Est-ce que tu crois, Laurent, que si jamais il y a pas de contrôle, justement, les gens vont se dire, bon, finalement, ça sert à rien de se faire vacciner, que ça va rebaisser les...
Mais il va y avoir des contrôles. C'est exactement comme les gendarmes sur la route, tu sais, les radars mobiles. Tu peux ne jamais te faire contrôler. Tu peux rouler à 250 km/h sur l'autoroute et jamais te faire prendre. Mais le jour où tu te fais prendre, là, t'as l'air bête, t'as plus de permis, on te bloque ta voiture, etc. Ça va être pareil. pareil. On va faire des contrôles aléatoires. On va faire des contrôles, c'est dans le sens où je dis médiatique, des choses qui vont marquer les esprits.
Laurent Neumann, depuis qu'on débat ensemble, c'est devenu le champion de France des radars.
Je dois... déjà, tu sais, ça fait déjà un moment.
Mais moi, j'assume. J'assume.
Il a une grande
passion. Non, moi, je crois que
la
voilà.
La peur du gendarme, c'est, tu sais très bien qu'il y a
moi,
ça qui marche.
Ça montre la faiblesse de l'État français. Moi, je pense qui est dans une forme d'absolutisme impuissant. Le fantasme de tout pouvoir contrôler est en fait une très grande impuissance. Et
j'entends ta remarque, mais le jour où Macron fait œuvre d'autorité, tu dis « Ah là, il est allé trop loin, oui, c'est liberticide !»
Il fait œuvre d'autorité, encore une fois, sur les honnêtes gens, et on le voit bien, il fera pas œuvre d'autorité complètement, puisque la règle sera appliquée de manière incomplète et arbitraire, et ça tombera peut-être pas...
Tu sais que celui qui roule à 250 km/h sur l'autoroute, tu peux le qualifier d'honnête gens. Il est honnête aussi, il risque la vie des autres, mais il est
250
honnête.
250 km/h, je pense que voilà, encore il y a une marge entre 250 km/h et celui qui en fera la vitesse de 5 km/h, par exemple, parce qu'il n'a pas fait attention. Et c'est peut-être celui-là qui va se prendre le radar et pas celui qui est à 250. Donc,
toujours ces honnêtes gens qui se font avoir.
Je pense que ça montre notre impuissance. Et je disais hier, la France va devenir la Corse ou l'Italie. Alors, j'ai rien contre les Italiens, j'ai des origines italienne, mais c'est une tradition italienne. Notre tradition était différente.
J'ai quand même une mauvaise nouvelle pour toi. Et c'est la preuve qu'on n'est pas dans une dictature et une démocratie. C'est que ces propositions d'Emmanuel Macron vont faire l'objet d'un projet de loi qui va être débattu démocratiquement par les représentants du peuple à l'Assemblée. Et pire que ça, le texte va être présenté au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État. Et si, comme tu le dis, les libertés sont atteintes ou tout ça serait totalement inapplicable, et en pire encore, on ne s'en prendrait qu'aux honnêtes gens, eh ben, ce texte, il verra jamais le jour. Donc, t'es rassuré, j'espère.
Mais c'est pas le débat. Voilà, tu nous fais le débat de tout à l'heure. On disait, est-ce que c'est applicable ou pas? Si on se base sur des règles juridiques pures et dures, il devrait être toqué effectivement par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Or moi, je pense que ces organismes sont des organes politiques et que ils suivront.
Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Et je vous rappelle notre question, passe sanitaire au quotidien, les mesures sont-elles applicables? Vous pouvez nous répondre sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre,
32-16. Et on était avec Mathieu qui nous appelle depuis Bordeaux, qui est développeur web. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Toi, alors, tu es contre le pass sanitaire et en même temps tu ne sors pas beaucoup.
Ouais. Moi, je ne comprends pas le concept en fait. Pour moi, c'est une obligation vaccinale qui se montre pas quoi. Pour moi, c'est une obligation vaccinale refoulée.
C'est vrai.
Tout simplement.
T'as tout compris.
Je fais partie de la communauté des geeks, comme on les appelle. Je ne comprends pas la race humaine. Donc, je ne vois pas en quoi...
du coup, t'es tranquille, quoi. Oui, toi, c'est...
Je ne vois pas en quoi, moi, ça va m'obliger à me vacciner, du coup.
Non, donc, mais limite, toi, si tu ne te vaccines pas, si tu ne côtoies pas la race humaine, t'es un peu tranquille, quoi. Mathieu ?
En fait, de nous... Oui, oui. Allô,
on t'a perdu, pardon. Non, on t'a pas entendu.
Allô ?
Oui, Mathieu ?
Oui, c'est mieux. Moi, je ne comprends pas l'intérêt de ce pass sanitaire, parce que déjà, pour moi, ça va être difficilement applicable, à moins que tous les restaurateurs jouent les flics, tous les gérants de cinéma jouent les flics, etc., etc., et qu'à l'entrée, on fasse scanner tous les QR codes, ce qui va être un enfer pour les queues. Moi, j'appelle ça le pass Mickey, parce que du coup, ça va être des queues bien plus longues pour une attraction finalement très courte.
Excellent. Très drôle.
Mais vous semblez... Je ne comprends pas ce problème.
Non, mais Mathieu, tu as parfaitement résumé la situation. Je crois que tu as très bien compris. Voilà. Le but du jeu n'est pas que ce soit appliqué 24 heures sur 24 dans 100% des lieux concernés. Le but du jeu, c'est que ça crée un électrochoc dans l'esprit des gens et qu'ils se disent on ne peut plus attendre.
Mais cet électrochoc ne se crée pas chez les gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas se faire vacciner. Regardez-moi, par exemple, ce n'est pas que je ne veux pas, je ne le suis pas, je ne vois pas l'intérêt pour moi, personnellement.
Eh bien, tu ne te feras pas vacciner.
Mais là, qui me disent bah, tu sais, ou au resto, faut que tu sois vacciné. Je vais ni au cinéma ni au resto. Qu'est-ce que j'en ai à faire?
Bah voilà. Et donc, Mathieu, tu as compris que là, on est à une étape. Dans 3 mois, s'il y a plus que 3 ou 4% de la population pas vaccinée, on n'ira pas à l'obligation vaccinale, ce sera inutile. Mais s'il y a 10, 15, 20% de la population qui ne veut toujours pas se faire vacciner, eh bien, l'étape d'après, ce sera de rendre la vaccination obligatoire. Alors, je pense qu'il a été clair, Macron.
Pourquoi on prend maintenant des mesures sociétales pour plus tard prendre des mesures médicales? Je comprends pas.
Ah oui, exactement.
Pour moi, le Covid, c'est typiquement médical. Mmh. On prend des mesures sociétales. Ça ne correspond pas.
quand je disais que ça participait de l'affaiblissement et du sentiment d'arbitraire de l'État, c'est exactement ça. Il aurait été plus courageux. Alors moi, j'étais contre parce que je pense que ça ne s'impose pas sur le plan sanitaire de rendre le vaccin obligatoire. Mais admettons qu'on pense que c'est une nécessité sanitaire. Eh bien là, on est un politique sérieux, on prend ses responsabilités, on fait appliquer la loi. Et puis là, Mathieu, t'as soulevé quelque chose d'intéressant quand tu disais les restaurateurs vont jouer les flics. Je pense que la majorité des restaurateurs vont être très cool, vont pas jouer les flics, c'est pas leur intérêt, ils vont prendre le maximum de clients. Mais le problème, c'est qu'on va voir, alors sans faire des points Godwin et des parallèles historiques douteux, mais on va voir, pardonne-moi, le petit collabo de service. Alors effectivement, pas avec les mêmes conséquences que dans des circonstances plus dramatiques, mais jouer le flic. Et moi, je n'aime pas ce type de société-là.
Je suis un peu réticent à la politique de base. Je ne vais plus voter depuis des années parce que de toute façon Coluche passera plus, donc ça sert à rien d'aller voter Coluche.
Mais tu sors pas en même temps. Tu sors peu, quoi. Donc t'es un peu réticent à la société tout court.
Oui, bah, en général, je suis réticent à la race humaine, on va dire, grossièrement. Mais je ne comprends pas ces mesures-là. Pour moi, si on est vraiment dans des mesures médicales pures et dures, on prend une mesure stricte, mais médicale. Là, pour moi, ce sont des mesures d'asservissement sociétal qui n'ont pas lieu d'être dans une pandémie qui a tout l'air d'être, pour moi,
médicale. Je pense, Mathieu, pour te répondre, qu'il y a une explication. C'est que aucun pays dans le monde n'a imposé l'obligation vaccinale.
Oui, mais le pass sanitaire non plus, je te rassure.
Eh bien, ça, c'est pas vrai. Si, il y a des pays d'Asie où le pass sanitaire existe déjà.
C'est quand même un exemple de démocratie. En général.
Ah, mais je pensais pas à la Chine, en l'occurrence.
La Corée du Sud. Maintenant, Laurent Neumann est un amateur du modèle.
Non, mais attends, moi, j'ai travaillé pendant un an avec Emmanuel Le Chypre. Il m'a suffisamment vanté le modèle coréen. Donc, maintenant, si tu veux, je suis convaincu. Non, là où je suis d'accord avec toi, Mathieu, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant comme décision.
Alors, non seulement
sauf
pas
que ça marche.
Mais en plus, ça alimente tous les,
mais
tous
sauf
les,
que ça marche.
Les détracteurs. Mais ça marche, mais non, ça ne marche pas.
Et s'il y a 2 millions de gens qui sont allés s'inscrire pour se faire vacciner dans la seule journée d'hier?
Alors, dans ces 2 millions de gens, il y a combien de trolls qui se sont inscrits juste pour dire, bon, on va alimenter les plateformes?
Ah, tu crois? Ah là, faut être sacrément. Attends, faut être toqué pour prendre des faux rendez-vous pour faire grimper les chiffres de la vaccination.
Non, mais moi,
montrer à Macron qu'il a raison.
J'en connais, moi, je fais partie d'une communauté de gamers et de gens qui s'amusent sur les réseaux. Et ces gens-là se sont mis d'accord pour aller prendre des dizaines de milliers de rendez-vous fictifs dans les centrales d'appel, dans les centres de vaccination, pour juste leur faire croire que oui, ils ont raison. Très bien, tout le monde va aller se faire vacciner.
Mais je comprends pas la démarche. Du coup, ça sert à quoi? Parce que du coup, Macron, il dit qu'il a raison,
mais quand il verra les vrais chiffres, là, pour le moment, on l'alimente pour le moment.
Ah ouais.
Quand il verra les vrais chiffres de vaccinés par rapport aux rendez-vous qui ont été pris, il va se rendre compte que c'est absurde, son truc. Absurde.
On a hacker parmi nous. Moi, j'ai une autre théorie, c'est que Emmanuel Macron ne croyait pas, je pense, philosophiquement, c'est pas son truc, en réalité, le pass sanitaire. Il l'a fait comme d'habitude, sous la contrainte médiatique, la contrainte de l'administration,
de l'opinion.
De Véran, etc.
De l'opinion.
Et puis parce qu'il s'est dit, l'autoritarisme sanitaire, ça peut marcher en plus. Donc tout ça, c'est de la politique. Et je trouve ça un peu navrant. C'est de la politique. Je pense que philosophiquement, Emmanuel Macron n'est même pas convaincu par lui-même.
Ouais, enfin, on reviendra dans quelques instants sur le sondage ELAB quand même, parce qu'il te donne en grande partie tort. Je suis désolé, Alexandre.
Oui, tu vas nous dire que toute la France est désormais d'accord pour l'obligation vaccinale. On va revenir dans un instant, effectivement, avec Éric Meilleur, secrétaire fédéral de Sudrail. Et puis, on sera tout à l'heure avec Jean-Jacques Samois, le patron du café du coin d'en bas de la rue, du bout de la ville, d'en face du port. C'est à Saint-Malo. Il est remonté comme un coucou suisse contre le pass sanitaire. Un grand merci à Mathieu. Mathieu qui n'aime pas trop la race humaine, mais qui aime bien parler avec nous sur RMC.
Il s'abat les plans du gouvernement.
Il est peut-être jusque nous, Mathieu. Merci à lui. En tout cas, on vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
Midi 14h.
Neumann Le Chypre,
le retour. On parle du pass sanitaire au quotidien. Est-ce que c'est applicable? C'est notre question pour Laurent Neumann. Oui, mais peu importe. Le but, c'était de créer un électrochoc pour que les gens aillent se faire vacciner. Pour Alexandre Devecchio, non, c'est totalement kafkaïen. Lisa Marie, qui est la première tendance des votes.
Vous ne semblez pas très convaincu par le pass sanitaire au quotidien. Vous êtes 63% à répondre non, les mesures ne sont pas applicables.
Alors c'est intéressant. Je vous avais parlé du sondage Elab là juste avant la pause. C'est intéressant parce que c'est pas ce que dit le sondage
Elab.
C'était Elab pour BFM TV hier soir. D'abord, à ma grande surprise, 52% des Français ont été convaincus par Macron. Je crois que c'est jamais arrivé, sauf la première fois où il a confiné tout le monde le 16 mars de l'année dernière. Mais là, l'extension du pass sanitaire, c'est 76% d'approbation. La vaccination obligatoire pour les personnels soignants ou non soignants, 76%, la fin de la gratuité des tests PCR, 63%, et l'adhésion de façon générale à la vaccination, on est à 79%. 79% des gens qui sont prêts à aller se faire vacciner. Pardon, mais ça veut dire quand même que globalement, ce petit coup d'autoritarisme, comme tu dis, ça marche et ça trouve de l'écho chez les Français.
Je n'ai pas dit que ça marchait pas. Je pense d'ailleurs que c'est assez politique de sa part. Je pense qu'il n'y croit pas vraiment lui-même, que c'est pas sa philosophie politique, mais qu'il y a vu son intérêt électoral, son intérêt pour que l'État profond, je dirais, lui fiche un peu la paix, notamment les plus sanitaristes dans son équipe. Donc c'est simplement ce que j'ai dit. Ensuite, les Français étaient plutôt convaincus par la vaccination avant. Maintenant, on voit bien que les modalités d'exécution et la méthode qui a été choisie va causer, ça va être un casse-tête pour les Français. Je pense que ce sera pas appliqué, mais si ça l'était, ce serait une catastrophe. Ne serait-ce que 2 millions de personnes qui en même temps là se sont inscrites pour se faire vacciner, on voit bien que c'est l'embouteillage. Moi-même ce matin j'ai essayé de m'inscrire, c'est aujourd'hui impossible de se faire vacciner. Donc je pense qu'on va avoir le retour des couacs qu'on a et de la pénurie de vaccins. Donc encore une fois, ce n'est pas sérieux. Ce qui aurait été plus sérieux, si on pense que la situation sanitaire l'exige, encore une fois, c'est pas mon point de vue, mais si c'était l'appréciation d'Emmanuel Macron, c'est qu'il prenne ses responsabilités et qu'il dise la vaccination est désormais obligatoire. Vous avez jusque au mois d'octobre, novembre, décembre, je n'en sais rien, pour le faire. Ça aurait permis à chacun de le faire tranquillement, en fonction aussi des risques encouru par chacun. Ça aurait été plus serein, plus sérieux, et c'est, voilà, il aurait assumé ses responsabilités. Là, il impose la vaccination dans un délai aberrant et de manière hypocrite en plus.
Avant d'aller au 32-16, on est avec Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail. Bonjour Éric Meyer. Allô, Éric Meyer, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Après le week-end du 1er août, le pass sanitaire sera obligatoire pour prendre le train. On écoute Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports.
L'objectif et la philosophie du gouvernement, c'est à la fois de concilier la liberté de déplacement, et notamment pendant l'été, avec l'incitation à la vaccination. Ce qui va rester ou demeurer, ce qui ne va pas changer pour cet été, c'est à la fois l'offre de trains et d'avions. Nous allons même mettre le même nombre de trains, d'avions et de cars longue distance. Et nous allons préserver l'ensemble des modalités pour acheter, pour échanger, pour se faire annuler des billets. Donc il y a, de ce point de vue-là, une totale stabilité et les usagers, les clients des transports doivent être rassurés. En revanche, ce qui va être exigé à compter de début août, c'est la présentation du pass sanitaire, c'est-à-dire d'un vaccin ou de test pour pouvoir prendre ces trajets ou ces modes de transport longue distance. Donc pour être concret, sur le mode ferroviaire, ça concernera essentiellement les TGV et les intercités. Et pour les cars qui font des déplacements inter ou des trajets interrégionaux, et pour l'avion, cela concernera les trajets domestiques, c'est-à-dire les trajets en France, sachant que de toute façon, et depuis le 1er juillet, les trajets hors France, notamment européens, sont soumis obligatoirement au pass sanitaire.
Voilà, le ministre donne le cadre. Éric Meyer, vous qui êtes secrétaire fédéral Sudrail, est-ce que vous savez comment vont se passer les contrôles du pass sanitaire dans la pratique ?
Alors non, il faut savoir que la direction SNCF, comme les cheminots et les syndicats, on a découvert ça lundi soir en regardant la télé comme tout le monde. Ouais. Alors si c'est un coup de com ou un coup politique, comme le disaient vos analystes, très bien, mais bon, il faut avoir les moyens de ces annonces et aujourd'hui. Très clairement, l'organisation du travail et les moyens de la SNCF ne permettent pas de pouvoir systématiquement vérifier les passes sanitaires avant l'embarquement des trains. Et il faut savoir que en période estivale, C'est 750 TGV journaliers qui circulent, qui transportent en moyenne 400 000 voyageurs par jour. Donc aujourd'hui, alors qu'on a aucune précision du gouvernement tant au véhicule législatif qui sera donné, c'est-à-dire un décret, une ordonnance, on ne voit pas comment, avec les moyens humains dont on dispose, avec les arrêts, les gares intermédiaires, avec l'organisation des transports telle qu'elle est faite aujourd'hui, comment on serait en mesure de pouvoir vérifier chaque passe sanitaire de chaque usager des
Éric Meyer. Éric Meyer, bonjour, c'est Laurent Neumann, merci d'être avec nous. Juste une question aujourd'hui, vous êtes bien d'accord, ou en tout cas il faut me rassurer, j'ai un doute là, mais il n'y a pas un usager qui monte dans un TGV sans un billet.
Donc aujourd'hui,
si on contrôle les billets, on peut contrôler le pass sanitaire en même temps.
Aujourd'hui, suivant dans les grands centres urbains, Paris ou les grands centres urbains, les billets sont contrôlés au départ.
Ouais.
Sont contrôlés au départ avec des portiques automatisés où il faut présenter son QR code, mais de titre de transport.
Eh ben là, faudra présenter son QR code de vaccination ou de test PCR.
Laurent Neumann, tu soulèves un truc intéressant. On va donc ficher avec un QR code PCR. Et comment vous faites
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens techniques de pouvoir modifier l'ensemble des bornes d'embarquement pour qu'elles soient pour qu'elle puisse flasher un QR code? Comment est-ce que vous faites pour vérifier l'identité éventuelle du porteur du QR code, sachant que nous, on est totalement opposés, et la direction SNCF aussi, à ce que ce soit réalisé à bord.
Je comprends très bien, mais pardon, pourquoi ça serait...
Ça peut être aléatoire, comme disait Laurent tout à l'heure, au PIF, avec des contrôles médiatiques, une journée de contrôle où on suit une équipe de policiers.
Alors il y a ça peut être des contrôles aléatoires, mais jusqu'à preuve du contraire, quand on monte dans un avion, ça marche très bien. Pourquoi ça ne marcherait pas quand on monte dans un train?
Parce que quand vous montez dans un avion, on vous demande de vous présenter 2 heures avant le départ de l'avion afin de passer toutes les formalités de sécurité.
Ah oui, c'est un problème de temps, d'accord.
Et qu'aujourd'hui, l'organisation des transports fait en sorte que le TGV soit affiché en gare 20 minutes à l'avance. Parce que c'est les TGV qui sont réutilisés, ils arrivent en général entre 45 minutes et 1 heure avant le départ, ils sont nettoyés et mis à l'affichage. Donc en 20 minutes, vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité physique de pouvoir contrôler le type de transport, l'identité et le QR code de 700 à 750 passagers.
Bah peut-être que c'est ça la solution, il faut contrôler le pass sanitaire à l'entrée de la gare. Puis le billet de train avant de monter dans le train.
Mais contrôler par qui, dans quelles conditions? Aujourd'hui, les seuls agents SNCF qui soient assermentés à pouvoir effectuer des contrôles d'identité sont les contrôleurs et sont la police ferroviaire. Et donc aujourd'hui, ils seront pas assez.
Il y a que 9000 contrôleurs, je crois, la SNCF. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est ça, 9000.
C'est-à-dire, pour vous, il y aura pas de contrôle en fait. C'est juste un effet d'annonce.
Il y aura pas de contrôle. Ça terminera certainement en contrôle aléatoire avec 12 caméras autour, histoire de dire que les contrôles sont effectifs. Mais les contrôles systématiques sont tout bonnement impossibles. Après, vous avez la problématique des gares intermédiaires. Dans les gares intermédiaires, qui sont pas des gares origine, qui issues des grands centres urbains, vous avez aujourd'hui pas de personnel. Vous avez un cheminot qui est présent physiquement dans la gare, et vous avez des usagers qui montent dans le train. Le contrôle avant l'accès à bord sera pas possible. Donc ça pose plein de problèmes législatifs, plein de problèmes pratiques, plein de problèmes d'organisation du travail, plein de problèmes de sûreté aussi, hein, de conflictualité.
Exactement. J'ai une inquiétude que j'ai soulevée tout à l'heure avec des citoyens qui vont se croire autorisés à faire la police. Puis il y a une deuxième inquiétude, c'est qu'en fait Emmanuel Macron incite à la gruge, pardonnez-moi l'expression, vu les délais qu'il nous donne pour se faire vacciner. Hein, je disais tout à l'heure que c'est impossible aujourd'hui de se faire vacciner avant 15 jours, 3 semaines. Et je pense que ça va pas s'arranger. Bon, les gens vont être tentés de faire défaut. On a vu déjà que sur Google, les demandes de passe sanitaire faux explosaient. C'est une des recherches qui a explosé ces derniers jours.
Et tu crois qu'il y a des gens qui vont demander le passe sanitaire d'autres gens, faire la police eux-mêmes, demander à ton voisin de TGV s'il a son passe sanitaire?
Oui, je pense qu'il y a, on voit bien le climat qui s'installe. Il y a une partie des vaccinés qui pensent qu'ils sont quasiment au-dessus des autres, qu'ils ont été plus malins que les autres, etc. Ah bon. Donc je pense qu'il va y avoir une forme de concurrence. C'est malheureusement dans l'esprit français parfois.
Éric Meyer.
On connaît déjà cette conflictualité aujourd'hui dans les TGV avec le port du masque. Ouais. Cette conflictualité entre usagers, entre voyageurs, avec le port du masque, où c'est les contrôleurs qui des fois sont obligés de faire la police entre usagers parce qu'il y a des altercations sur le mauvais port du masque, etc., etc.
Ouais, mais Eric, globalement, les Français,
on peut largement imaginer que le pass sanitaire, ça amènera aux mêmes effets.
Non, mais Éric Meyer, soyons honnêtes, les Français, globalement, ils se comportent vachement bien. On leur a fait subir quand même des contraintes absolument terribles, du confinement au couvre-feu, en passant effectivement par le port du masque, et globalement, ça s'est super bien passé.
Ah oui, je dis pas que ça se passe mal. Je dis qu'aujourd'hui, entre citoyens, entre usagers, ça peut amener de la conflictualité. Voilà. Moi, je vous dis ce que nous on constate, c'est que cette conflictualité-là, elle peut exister entre usagers sur la question du mauvais port du masque dans les trains, etc. Donc si elle existe sur ce mode-là, elle pourra exister sur le mode du passe-passe sanitaire. C'est pour ça que nous on a exigé. Et apparemment, la direction SNCF sera d'accord avec nous. Il n'y aura pas de contrôle du pass sanitaire à l'intérieur du train.
Merci beaucoup Éric Meyer d'avoir été avec nous, secrétaire fédéral Sud Rail. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Eddy qui nous appelle de Courthézon dans le Vaucluse. Bonjour Eddy.
Bonjour.
Toi, tu es infirmier et tu es d'accord avec les mesures prises. Tu penses qu'elles seront faciles à faire respecter?
Facile à faire respecter, pas forcément, mais je suis d'accord avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement, dans le sens où on a donné tous les moyens, depuis qu'on a le vaccin, pendant un certain temps, aux Français de se faire vacciner. Beaucoup se sont fait vacciner, bon, parce qu'il y a eu ceux qui étaient plus sensibles par rapport à une pathologie, ceux qui avaient l'âge qui jouaient, les maisons de retraite, tout ça. Beaucoup de soignants sont, ou même sans parler des soignants, beaucoup de personnes sont opposées au vaccin. On arrive à un moment où il y a le variant Delta qui arrive, c'est normal, hein, c'est l'évolution de les virus mutent à chaque fois que ça se transmet de personne en personne. Il y a le variant Delta qui est arrivé. On a une échéance qui est à peu près le mois de septembre. D'après les statistiques, par rapport à la quatrième vague, on a eu suffisamment le temps de se faire vacciner jusqu'à aujourd'hui. Au bout d'un moment, donc les gens ne veulent plus se faire vacciner. On a remarqué donc des chutes des premières inscriptions au vaccin. Quelle solution a le gouvernement si ce n'est nous forcer la main, entre guillemets, à se faire vacciner, car il n'y a pas d'autre solution à aujourd'hui.
T'as fait un bon résumé de la situation, Eddy, juste ce qui a amené à prendre des décisions de la part d'Emmanuel Macron. Mais tu penses qu'il y aura pas, en fait, qu'il y aura pas de problème, quoi. Ça va se faire de fait, les gens vont se vacciner et ça va aller, quoi.
Non, je crois pas que les gens, de ce fait, vont aller se vacciner sans rien dire, sans râler. Le français est râleur, le français est toujours contestataire, il y a toujours quelque chose à dire. Ça a toujours été de tout temps. Mais là, à un moment, le gouvernement, bon, certes, au début, c'était très chaotique. Il y a eu l'histoire des masques, l'histoire des blouses, le matériel qui n'était pas en nombre. Moi, le seul gros défaut, à la limite, moi, ce que je reprocherais personnellement au gouvernement, ils ont donné des milliards aux grosses entreprises, à Renault, à différentes entreprises, pour pas qu'ils coulent, pour pas qu'ils licencient, pour pas qu'ils ferment. Les gens, ils ont pris les sous. Il y a eu des licenciements, il y a eu des entreprises qui ont fermé. Bon, entre guillemets, ça n'a pas marché, ils se sont fait avoir, bon, peu importe. Ils ont, et surtout que le principal indicateur par rapport au confinement, c'est les places en réanimation. Tous ces milliards, ils auraient ouvert 1000, 2000, 3000, 4000 lits de réanimation. Depuis un an et demi, ça aurait été fait. On aurait été moins pressé de pousser à la vaccination. On aurait eu plus de délais par rapport à tout ça.
Merci Eddy d'avoir été avec nous dans Merci beaucoup Eddy d'avoir été avec nous dans Neumann le Chiffre. Des milliards qui sont aussi des plans, hein, des prêts, hein, qu'il faudra rembourser. C'est pas de l'argent comme ça donné aux grandes entreprises. Et il y a beaucoup de grandes entreprises qui n'ont pas du tout pris de PGE. Je tiens quand même à le signaler. Merci beaucoup Eddy d'avoir été avec nous dans Neumann le Chiffre. On va continuer à discuter passe sanitaire au quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que les mesures sont applicables? On vous attend au 32-16. À tout de suite.
Midi 14h.
Neumann le Chiffre.
Neumann le Chiffre, le retour, on est ensemble jusqu'à 14h, passe sanitaire au quotidien, les mesures sont-elles applicables pour Laurent Neumann? Oui, mais peu importe, le but c'était de créer un électrochoc pour Alexandre Devecchio. Non, c'est totalement kafkaïen, on va retourner au 32-16 dans un instant, mais avant on est avec Jean-Jacques Samoa. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Laure, coucou, tout bon.
Salut Jean-Jacques.
Coucou patron.
Non, je fais bonjour Jean-Jacques. Tout bon parce que Laure a dit que j'étais remonté comme un coucou.
Ouais.
Donc coucou, tout bon.
Mais c'est
comme
vrai,
on
non
dit en Suisse.
Est-ce que c'est vrai?
Ah ben quand il faut dire stop Laure, c'est ouais. Top. Hein, nos métiers des cafés, restaurants, hôtels, on a assez de servir de laboratoire ou de prétexte au gré des vents gouvernementaux, qu'importe les raisons. D'ailleurs, j'ai une déclaration à faire.
Oui.
Moi, président de moi-même et des anges, des justes et des sales rêveurs, moi, président, je dis non à cette instauration d'obligation de présentation d'un Ausweis vaccinal pour nos clients qui viendront à partir du mois d'août. Je ne suis ni un policier, ni un mouton. Et quand je dis non, c'est non. Ça sert à quoi de sauver nos entreprises si c'est pour aujourd'hui faire face à une vague d'annulation de vacanciers, mais sans précédent? Il y a peut-être 2 millions de gens qui vont se faire vacciner. Oui, Laurent Neumann, tu vas prendre cher, ça a marché. Ok, pas de problème. Mais il y a beaucoup plus d'annulations de vacances là en ce moment. C'est un truc de fou.
Non mais Jean-Jacques,
toi,
Jean-Jacques,
tu vois ça, hein, tu vois les
annulations. Mais oui, bien sûr. Mettez 2 CRS devant chacun de nos entreprises, chacune de nos entreprises, parce que les conflits, va falloir les gérer encore plus. Déjà, on doit tout surveiller. Mais alors là, il va falloir le faire aussi dans les métros, les RER, les bus, les supermarchés, hein, hors centres commerciaux, bien sûr. Où est passé notre bon sens français? Où est-ce qu'il est?
Non, mais Jean-Jacques, comme tu es. Attends, Jean-Jacques.
Je suis d'accord avec Alexandre Devecchio, pour une fois, Laurent, mon ami.
Ouais.
Parce qu'on nous traite comme des gosses depuis 2 ans. Mais heureusement qu'on n'a pas eu Ebola, hein. On aurait fait comment?
Non, mais Jean-Jacques, attends, tu dis on nous traite comme des gosses, mais pardon, on est des gosses. On est des gosses. Bah oui, puisque, attends, Macron annonce ses mesures lundi soir. Dans les 10 heures qui ont suivi, 2 millions de gens ont pris rendez-vous pour aller se faire vacciner. Mais on est des gosses. On nous traite comme des gosses parce qu'on se comporte parfois comme des gosses.
Bah oui, mais enfin, c'est pas parce que, je reprends ton exemple de tout à l'heure, c'est pas parce que on va rouler, il y a un con qui roule à 250 km/h sur l'autoroute que tout d'un coup, tout le monde va se mettre à rouler à 250 km/h sur l'autoroute.
Tu as un très bon exemple, mais c'est parce qu'il y a des radars sur la route qu'heureusement, il y a très peu de cons qui roulent à 250.
Tu sais pourquoi les gens sont allés se faire vacciner? Ils sont allés se faire vacciner parce qu'on touche à leurs vacances. Voilà, c'est réussi, bravo.
Eh ben, tu dis comme moi.
Eh ben oui, mais moi, ce que j'aurais dit d'un État, alors à ce moment-là, on va dire que je suis un dictateur et on aurait bien raison.
Oh non.
Mais à ce moment-là, qui se mettent un peu les trucs sur la table et puis qu'ils imposent la vaccination, oui. Ça va plus vite.
Exactement. Ça, c'est ce que pense Devecchio. Et là, c'est la limite. Moi, je suis pas d'accord
avec Alexandre. Mais... Ouais. Voilà. Et comme moi, je vais me présenter, je vous l'annonce, comme président de la République l'année prochaine, je vais vous prendre dans mon gouvernement pour la controverse perpétuelle, parce qu'on a besoin de controverse. Quant à Laure, elle sera évidemment ma première ministre.
Ah, c'est sympa.
Moi, je quitte la France.
Ah, bah d'accord. il a trop les jetons, il préfère partir. Ça sera pas très efficace, hein, comme gouvernement.
Regardez aujourd'hui les manifestations partout. Il y en a à Marseille aujourd'hui. Je fais coucou à mes amis de Marseille, puisque Laure, le café du coin d'en bas de la rue, du bout de la ville, d'en face du port, la Java,
oui,
sera à Marseille à partir
mais oui,
du 23
je sais
août.
Bien. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'à Saint-Malo, comme à Marseille, il n'y aura pas de contrôle chez toi? Tu demanderas pas tes salariés s'ils sont vaccinés, tout ça tu feras pas.
Mais comment je fais moi en tant qu'exploitant pour imposer à mes salariés de se faire vacciner s'ils n'en ont pas envie? Je fais comment? Je leur mets une sanction, je les mets au coin, je les prive de dessert, je les prive de salaire? Non mais on est où là?
Parce que
on, est en,
Mais je ne sais pas, le consensus français, on l'a perdu, ça fait des années avec ce mandat qu'on nous divise, on ne fait que nous diviser. Je veux dire, normalement, un président de la République, il est fait pour rassembler, non ?
Oui, mais moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et là, il y a un cas concret que vous présentez, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire les patrons ? Ils vont être obligés de virer leurs salariés s'ils ne sont pas vaccinés. On est dans un délire total.
Il est, pour ma part, hors de question, que je demande le moindre Ausweis à n'importe quel client. Moi, comme je gère mon affaire en bon père de famille, c'est ce qui est marqué dans tous les beaux commerciaux, je dois vérifier que la personne qui rentre, déjà et d'une, ne vient pas commettre un attentat. Déjà et deux, je dois vérifier qu'il n'est pas alcoolisé. Déjà et deux, trois, je dois vérifier qu'il ne sort pas complètement défoncé de chez moi. Et quatrièmement, je n'ai pas à leur demander quoi que ce soit.
Mais c'est, puis, je veux dire déjà... Jean, que la fermeture, ça a déjà été dur et long. Vous n'êtes pas là pour refuser des clients non plus, effectivement.
Mais non plus, ça a servi à quoi de sauver nos entreprises si on nous remet dans le dur, là, maintenant? Je veux dire, c'est complètement antinomique.
Bon, Jean-Jacques, tu me préviens quand tu te présentes à l'élection présidentielle.
Ah, mais Laurent, déjà, tu vas me filer ton 06 parce qu'il faut que je t'appelle absolument.
Je te l'envoie.
Ouais, tu me l'envoies parce que forcément, on va monter un programme.
On vous laisse faire ça hors antenne, hein, monter votre petit programme tous les deux.
Il va quand même qu'on discute de qui est Premier ministre. Hein,
parce merci, que... on a dit que c'était moi.
Bah, justement.
Maintenant, c'est réglé. Merci beaucoup, Jean-Jacques Samois, d'avoir été avec nous le café La Java à Saint-Malo. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Jean qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour, Jean.
Bonjour.
Jean, tu es dans ta voiture ou dans le TGV, tu t'es arrêté ?
Oui, je suis en train de m'arrêter.
Alors, prends le temps de t'arrêter tranquillement. Jean, toi, tu es 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois d'accord avec Laurent Neumann ?
Tout à fait.
Donc, tu es pour le passé ?
Personne n'est parfait, Jean.
je suis pas tout le temps avec Laurent.
Ouais.
Mais sur ce coup-là, oui.
Mais alors, c'est quoi tes arguments à toi ?
Alors, mes arguments à moi, c'est que déjà, je suis vacciné et à fond sur le vaccin, tout en étant plutôt tolérant vers ceux qui ne souhaitent pas l'être. Ce qui me dérange aujourd'hui, et pour revenir au propos d'aujourd'hui, c'est le choc psychologique, d'accord ? La question est très intéressante, elle est en deux temps. C'est le pass et éventuellement créer un électrochoc. Donc, c'est sur ça, en fait, que je veux rebondir. Sur le million de personnes qui se sont inscrites, s'il y en a ne serait-ce que 500 000... Qui sont vaccinés, je considère que c'est une victoire. Donc voilà, c'est un petit peu ça la base de ma réflexion. J'ai 40 ans, j'ai pas de problème de santé, je suis vacciné, je l'ai fait pour des raisons de conviction, pour des raisons professionnelles, parce que je voulais pas être embêté pour pouvoir exercer mon travail. J'ai ma femme qui est enceinte, donc c'était évident pour moi de pouvoir la protéger. Et surtout, la base du vaccin, on l'a oublié, hein, parce qu'on est le pays des Lumières et soi-disant des intellectuels, mais j'ai l'impression qu'on vient de payer l'obscurantisme et qu'on a oublié de dire à nos compatriotes que le vaccin avait sauvé des millions de vies et des milliards de vies depuis plus d'un siècle, et que ce vaccin, malheureusement, me semble être une évidence parce que la Covid, c'est une vraie saloperie. Voilà.
Allez, Laurent, ça te satisfait ?
Ah moi, je bois du petit lait. Je bois du petit lait. Je partage ça absolument.
C'est incroyable.
Mais je te rassure, je te rassure, Jean. Quand tu dis la France est devenue le pays de l'obscurantisme, non, on entend des obscurantistes. Mais la France n'est heureusement pas devenue le pays de l'obscurantisme.
Pas dans la défiance vaccinale, on a changé depuis le mois de janvier. Oui. Ah si, on était très très mal placé.
Mais
sur le plan mondial, Laurent.
Mais aujourd'hui, 80% des Français sont prêts à aller se faire vacciner.
Ça avance. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été avec nous au 32-16. Lisa-Marie, quel est le résultat des votes ?
Vous n'y croyez pas, hein, l'application du pass sanitaire au quotidien. Vous êtes 70% à avoir répondu que non, ces mesures ne sont pas applicables.
Et on va parler de Cannes, le festival.
RMC, Neumann Le Chypre. C'est bon à savoir.
Lisa-Marie, au Festival de Cannes, tous les festivaliers ont dû payer 24 euros pour se rendre sur place, mais pourquoi faire ?
Bien pour la planète, tout simplement. Pour la première fois, Cannes instaure une contribution environnementale et les 25 000 festivaliers ont dû payer la somme de 24 euros alors que leur accréditation était censée être gratuite. Une somme qui sera intégralement reversée à 6 projets pour l'environnement retenus par un comité scientifique d'experts indépendants. Des projets pas encore dévoilés publiquement en détail. Mais alors pourquoi la somme de 24 euros ? Eh bien, bien, c'est l'empreinte carbone moyenne par participant. C'est en réalité 20 euros hors taxe et 24 euros TTC. Cette taxe s'inscrit dans une démarche globale du festival qui a placé l'écologie au cœur de ses préoccupations cette année. Parmi les autres mesures, la suppression des bouteilles en plastique durant la quinzaine, ça représente quand même 20 000 bouteilles au total, ou encore le remplacement des voitures diesel par une majorité de voitures électriques pour conduire les stars sur le tapis rouge. Plus symbolique, le fameux tapis rouge justement est désormais remplacé deux fois moins que par le passé, un effort qui permet de réduire d'une tonne la quantité de textiles utilisés au cours de l'événement. Laurent, je te vois surpris.
Mais oui, attends, t'es en train de nous dire que Spike Lee ou Catherine Deneuve ont payé 24 euros avant d'avoir le droit de fouler le tapis rouge.
Tout à fait.
Non, mais t'as vérifié ? Ils ont vraiment donné 24 euros.
Ils ont tous
euros.
Payé, les 25 000 festivaliers ont payé aux organisateurs du festival de Cannes.
Moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'ils sont tous venus avec leurs gourdes. Ça, je trouve ça drôle.
Oui, et puis ils sont tous venus avec leur voiture, leur chauffeur, leur non ?
Avec une
mais
Zoé.
Tu trouves, attends, excuse-moi, mais on peut pas toujours tout critiquer. Tu peux pas dire que là, le festival de Cannes prend une initiative. Why not, tu vois.
Ah non, mais je trouve ça très bien. Tu m'as entendu critiquer.
Ah non, je pensais que tu critiquais.
Ah non, je m'étonne que des gens qui ont l'habitude que tout leur soit offert, que tout soit qu'on leur déroule le tapis rouge justement, aient fait l'effort de verser leur écho. Je suis très étonné.
Après Laurent, quand tu viens, je pense en jet privé et que tu te déplaces sur des yachts toute la semaine, toute la quinzaine.
Tu peux payer 24
euros.
D'accord.
Ça va.
Ça va pas changer ta vie, je pense. Non. Mais voilà, c'est le festival de Cannes. Ils essayent de devenir un petit peu plus sensibles à l'écologie et ils agissent.
Bon, mais moi, bien. Je pense que désormais, tu vas avoir ton empreinte écologique partout. Tu sauras ton empreinte pour te déplacer, combien t'as coûté écologiquement ton voyage et tout. Ça va être.
Mais petit hommage en passant à mon camarade Emmanuel Le Chypre, à qui je souhaite d'excellentes vacances. Il est pour la taxe carbone et moi aussi. Ouais. Moi aussi, je suis pour une taxe carbone tout le temps. En tout cas, pour tout ce qui rentre en France.
Oui,
partout. Hein. Ah ouais.
Mais maintenant, quand on réserve un billet d'avion, à titre personnel, sur certains sites de comparateurs, on voit l'empreinte carbone pour le billet qu'on veut prendre. Et on nous propose un billet, le billet le plus écologique, qui est parfois plus cher. Mais
ça s'appelle la pédagogie, c'est très bien.
La pédagogie aussi et le paiement.
Oui.
4 euros, c'est pas que de la pédagogie.
Ouais, enfin, tant qu'on peut encore prendre l'avion, mais à mon avis, ça va pas durer.
Merci beaucoup, Lisa Marion.
Mieux en mieux, Laurent.
Pessimiste, Laurent.
Non, mais tu verras un jour, on t'expliquera qu'on peut plus partir en vacances en avion.
Bah, ça existe déjà, la critique de l'avion. Non, c'est un nom précis, d'ailleurs.
Non, mais un jour, tu auras l'obligation de ne pas prendre l'avion pour tes vacances.
Je t'ai déjà dit ce matin que les voitures allaient disparaître. Mais t'es pas prêt pour ce nouveau, monde. Merci, Lisa Marion. On peut retrouver C'est bon à savoir sur nos réseaux sociaux et sur rmc.fr. C'est la fin de Man Le Chypre. On se retrouve demain.